Vous écoutez, on lit pour vous.
La pensée en sous-traitance. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 26 août 2025 dans La Presse. Professeure de littérature au Cégep, Élise Duprat avait demandé à ses étudiants un travail de fin de session. Ils devaient produire un recueil de citations tirées d'ouvrages au programme et les accompagner de leurs commentaires. Le résultat lui a brisé le cœur. Au fil des corrections, Élise Duprat a vite compris que l'intelligence artificielle, IA, s'était mêlée des travaux de la plupart des étudiants. Par mégarde, l'un d'eux avait même copié-collé la requête faite à ChatGPT, le prompt, comme on dit dans le jargon, dans son recueil autrement impeccable. Trop impeccable, il faut bien le dire, pour ne pas soulever de doute. Élise Duprat a écrit à ses étudiants. « J'ai corrigé vos florilèges. Avec une profonde tristesse », leur a-t-elle avoué. Certains avaient manifestement utilisé l'IA pour reformuler des phrases. D'autres avaient demandé à ChatGPT d'identifier figures de style et autres procédés littéraires dans les citations. Bref, les étudiants avaient donné leurs réflexions en sous-traitance à un robot conversationnel. Leur professeur était dévasté. Toute cette session, je me suis efforcée. Imparfaitement, j'en suis consciente. Je suis un être humain. Je ne suis donc pas parfaite. De vous accompagner avec autant d'empathie que cela était possible. De vous aider à réfléchir pour vous préparer à l'épreuve uniforme de français. Mais surtout, à la suite du monde, d'entrer en dialogue avec chacun d'entre vous, avec votre pensée, avec votre sensibilité, leur a-t-elle écrit. Cette confiance que je croyais mutuelle vient de se heurter au mur de l'IA. Vous avez estimé que ce dialogue entre nous était sans intérêt, que seul le résultat comptait. Page après page, Élise Duprat a eu l'impression de corriger une machine. Ça n'avait aucun sens, aucune pertinence. Le processus d'évaluation est cassé, leur a-t-elle écrit. Vos notes ne valent plus rien. Cette histoire s'est passée l'an dernier au cégep de Saint-Jérôme, mais elle aurait pu se passer dans n'importe quel cégep du Québec. Et elle risque fort de se multiplier. L'intelligence artificielle chamboule l'enseignement supérieur à une vitesse folle. La plupart d'entre nous ne faisons plus de travaux à la maison, confie Élise Duprat. Nous sommes toujours dans les médias. Nous ne pouvons plus donner aux étudiants un sujet sur lequel ils auraient pu réfléchir pendant quelques semaines. Parce que la tentation de faire réfléchir l'IA à leur place est devenue trop forte. Dans un récent essai, Brian Klass, professeur de sciences politiques à l'University College de Londres, déplore également le fait que sa capacité d'évaluer les étudiants soit désormais réduite à néant. Un peu comme si on demandait à un médecin de diagnostiquer un patient sans savoir si le test sanguin provient de son corps ou de celui de quelqu'un d'autre. Pour ce professeur, l'heure est maintenant venue de sonner le glas de la dissertation étudiante, lâchement assassinée par une horde de robots conversationnels. Comme Élise Duprat, Brian Klass peut aisément repérer des travaux rédigés à l'aide de l'IA générative. L'écriture s'est améliorée. Les idées, elles, se sont dégradées. Le professeur qualifie cette collaboration maladroite entre les étudiants et la Silicon Valley de Gadou scintillante. Avouons-le, la perspective de voir de nouvelles générations s'en remettre massivement à des robots plutôt que de réfléchir par elles-mêmes a quelque chose d'angoissant. Et ça ne devrait pas seulement inquiéter leurs profs, mais toute la société. Pour Brian Klass, c'est carrément l'avenir de l'humanité qui est en jeu. À la longue, on risque de priver l'espèce humaine de la compétence fondamentale qui lui permet de prospérer. Apprendre, non pas quoi penser, mais comment penser. Trop pessimiste, cette vision des choses? Peut-être. De récentes études aux États-Unis et en Europe tendent pourtant à montrer que le recours excessif à l'IA pousse bel et bien à la paresse cognitive. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives de ces études. N'empêche, ça ne prend pas la tête à Papineau pour présumer qu'à plus ou moins long terme, l'intelligence artificielle risque de bousiller la créativité de ceux qui en abusent, tout comme leur capacité à apprendre et à développer un esprit critique. C'est d'autant plus préoccupant qu'un grand nombre d'étudiants utilisent désormais l'IA dans le cadre de leurs travaux scolaires. Au Canada, c'était le cas de 6 étudiants adultes sur 10 en 2024, selon un sondage de KPMG. La majorité d'entre eux avouaient d'ailleurs ne pas apprendre autant ou retenir moins de connaissances. On se demande bien pourquoi. Attendues depuis longtemps, des balises visant à encadrer l'IA générative dans les cégeps et les universités ont été présentées la semaine dernière par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Le gouvernement n'avait pas le choix de sauter dans le train en marche. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le monde de l'éducation est entré dans une nouvelle ère et les étudiants québécois seront désavantagés par rapport aux autres si on refuse d'adapter nos méthodes d'enseignement. Prudent, le gouvernement s'est toutefois livré à un jeu d'équilibriste. Pas question de légiférer ni de prescrire une stricte marche à suivre aux cégeps et aux universités. Tout au plus, propose-t-on quelques grands principes. Le plus évident, l'IA ne doit pas se substituer aux humains. Ouf! On nous assure toutefois que l'IA peut être un outil permettant de rendre le travail plus efficace. En théorie, peut-être. En pratique, ça risque d'être plus compliqué, estime Élise Duprat. Comment en arriver à encourager l'usage de l'IA pour certaines choses et à le décourager pour d'autres? À quel moment un travail plus efficace devient-il de la triche? On ne peut pas en vouloir aux étudiants. Ils utilisent un outil dont on vante les mérites sur toutes les plateformes, constate Élise Duprat. On leur dit que ça peut les aider, les sauver, leur donner une bonne note et le diplôme qu'ils veulent. Comment résister à ces sirènes? Pour la professeure, le problème va bien au-delà de l'école. C'est celui d'une société qui valorise le résultat plutôt que les apprentissages et les salaires plutôt que l'utilité sociale. À l'aube d'une rentrée où l'IA risque plus que jamais de se faufiler partout, les éducateurs doivent faire prendre conscience aux étudiants que la vraie intelligence se cultive patiemment, en y mettant des efforts et en faisant travailler ses méninges. Artificielle, elle ne produira jamais qu'une gadoue scintillante. C'était La pensée en sous-traitance. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 26 août 2025 dans La Presse.
Martin Bélanger, Les angoisses passionnelles. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. L'an passé, il avait attiré l'attention avec La fin de nos programmes, une histoire de radio et d'acouphènes où le personnage était accablé par le deuil et préoccupé par la recherche de sens. Un an plus tard, Martin Bélanger, originaire de Québec, maintenant nouveau résident de Mont-Saint-Hilaire après une escale de 4 ans à Toronto, vient de commettre son 2e roman, souvent déterminant dans la carrière d'un auteur. Avec 180, l'écrivain nous introduit cette fois dans la vie de Thomas Delage qui, comme le titre nous en informe, aura à vivre d'importants changements, ayant jusqu'à devoir négocier âprement avec son âme et sa conscience. Engagé avec Armel dans une relation amoureuse, Thomas s'apprête à subir une vasovasostomie, une opération visant à renverser une vasectomie et à le rendre de nouveau fertile. Pourtant, d'aussi loin qu'il se souvienne, il n'a jamais voulu devenir père, n'a pas l'appel. S'est même volatilisé subitement lorsque, jeune adulte, une de ses fréquentations avait vaguement évoqué son souhait d'avoir des enfants. Mais la vie nous sert par instants d'étonnantes volte-face, se jouant de nos assurances premières. Les événements nous conditionnent et nous amènent à nous demander si nous décidons réellement quelque chose, aveuglés par l'illusion que nous tenons les ficelles. Je n'ai plus 20 ans. Et j'ai assez de décennies derrière la cravate pour avoir appris que les convictions parmi les plus fermes que je pouvais entretenir ont parfois été celles qui, plus tard, ont été complètement ébranlées, constate l'auteur. Quoi qu'il en soit, depuis sa rencontre avec Armel, Thomas veut bien tenter le coup et fonder une famille, mais pour l'heure, il doit s'envoler vers la Californie, effectuer pendant 1 mois un contrat de traduction pour la multinationale technologique Pineapple. Préoccupation libidinale. Lors de son premier vol l'amenant vers Toronto, Thomas tombe sur Marianne, une ancienne flamme de ses années d'université. 20 ans plus tard, à sa simple vue, retour en arrière immédiat. Réminiscence des beaux jours d'insouciance. Remémoration du trouble qui le consumait en sa présence. Vague de concupiscence remontant à la surface et s'immisçant malgré lui dans son corps et son esprit. Cette situation, pas si extraordinaire en soi, n'en est pas moins un terreau fertile pour Martin Bélanger, auteur à la plume habile, qui en a profité pour creuser les questions d'infidélité, de désir et du voyage d'affaires. C'est un lieu commun. Des gens qui sont heureux en mariage, absolument amoureux et attachés à leur partenaire, vous les placez dans un séminaire de travail pendant 1 semaine en Floride ou en Espagne, et là, tout d'un coup, il peut se passer bien des affaires. Ensuite, reste à voir si l'on peut vivre avec les conséquences, c'est-à-dire avec le poids moral de ses actes. Le héros expérimentera les affres de l'écartèlement entre ses pulsions et ses principes, soumis à la force des conjectures. Comme Thomas convoite lubriquement Marianne et aime tout de même Armel, nous sommes en droit de nous demander si dans notre société nous ne faisons pas trop souvent grand cas de l'infidélité alors qu'elle ne signifie pas nécessairement un aveu de désamour envers notre conjoint ou conjointe. J'ai un ami un jour qui m'a dit que l'intimité, ça ne se partage pas. Ça m'a frappé, exprime Martin Bélanger. Il y en a d'autres qui vont prétendre le contraire et très bien vivre avec ça. C'est chacun son truc, mais moi, ça a résonné. Le doute et les remises en question qui assaillent Thomas le poursuivent dans sa résolution même d'avoir un enfant avec Armelle. Il ne sait plus où ses convictions logent. D'autant plus que les souvenirs du passé lui rappellent les arguments qu'il tenait à propos de ses raisons de ne pas en vouloir. Encore là, ce que l'on croyait immuable et inflexible tangue à certains moments, nous laissant à la merci des tourments que ces incertitudes engendrent. Bélanger présente un homme en proie à un dilemme cornélien devant faire face à ses contradictions et empoigner sa culpabilité afin de la tordre et garder presque intact son sentiment de loyauté. Finalement, les circonstances détermineront si Thomas et Marianne passeront à l'acte ou pas, comme si le sort avait un dessein tout préparé dans sa manche. La vie a peut-être souvent raison. Elle s'en tient à ce qu'elle veut, de dire l'écrivain. Les chemins se tracent sous nos pas au fur et à mesure de ce qui nous arrive. Se mettre à l'ouvrage. L'œuvre littéraire, pour Bélanger, s'émancipe à partir des balises qu'il s'oblige à respecter, trouvant davantage de liberté à l'intérieur d'un cadre assez précis que dans un infini sans repère. Venant du monde de la publicité et habitué à travailler avec des barèmes, il applique dans l'écriture la même procédure. Je fais partie de ceux-là qui croient que la contrainte est nécessaire à la créativité, explique-t-il. J'ai étudié en musique. C'était la même chose. Je m'impose des amalgames, identifiant quelques éléments de sa vie personnelle. Il les transpose dans ses histoires sans pour autant faire de l'autofiction. Dans le cas de son roman « 180 », il a utilisé son propre choix de non-parentalité afin d'en munir son protagoniste, qui aura aussi à reconsidérer sa décision. Une fois les thèmes sélectionnés, il se laisse mener par le bon vouloir du récit et des protagonistes qui forgent le reste. Plusieurs auteurs et autrices influencent aussi, par leur souffle et leur manière, son écriture. Fabrice Caro, Maria Pourchet, Fanny Britt. 180 n'est d'ailleurs pas sans rappeler le roman Les Maisons. Jean-Paul Dubois, Marie-Renée Lavoie, François Blais, Lionel Shriver alimentent la bougie d'allumage de Martin Bélanger. Ainsi, on entre dans le cerveau de Thomas, qui narre un chapitre sur deux, l'autre moitié relatant les faits et gestes de Marianne, étant raconté à la troisième personne du singulier. Je ne me sens pas assez compétent pour entrer dans la tête d'un personnage féminin, avoue l'auteur, surtout que c'est elle qui représente le choix d'avoir des enfants, contraire au mien. Il y avait donc deux obstacles qui m'empêchaient d'avoir confiance que je puisse être authentique. Dans les dialogues, Marianne apparaît pourtant très crédible, reflétant une femme également aux prises avec ses démons. Car dans 180, la fourche du diable qui pique les anciens amants n'accorde pas de répit. On le sait, la tentation est grande et la chair est faible. Et les flammes de l'enfer dans lesquelles tout cela peut conduire sont, quant à elles, sans pitié. C'était Martin Bélanger, Les angoisses passionnelles, un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 21 octobre 2024 dans Les libraires.
Ma coach est une multiple médaillée olympique. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 25 août 2025 dans La Presse. Recevoir les conseils de plongeuses qui ont atteint les sommets de leur discipline, ce n'est pas banal. Depuis 2 ans, des jeunes du club de plongeon Agami de Brossard sont guidés par la quadruple médaillée olympique Emily Haymans. Dans quelques semaines, Megan Benfeito, qui a conclu sa carrière avec 3 podiums olympiques, fera de même à Terrebonne avec Camo, C-A-M-O. Les filles d'Emily Hammonds l'ont ramenée vers les tremplins. Ma plus jeune voulait plonger et je l'ai inscrite à des cours récréatifs, se souvient-elle. Ma deuxième a embarqué elle aussi. Quand un entraîneur a quitté le club, je leur ai dit que j'étais disponible quelques fois par semaine au besoin. Après un détour en garderie et dans un gym, Megan Benfeito revient peu à peu vers le plongeon. En mars dernier, l'entraîneur-chef de Camo, Stéphane Lapointe, lui a suggéré de devenir coach ou de travailler en gestion pour le club. Plus cette idée a fait son chemin, plus j'ai réalisé que je m'ennuyais du plongeon. Ces jours-ci, elle suit une formation en sauvetage avant de faire de même pour devenir entraîneuse. Pour l'instant, je fais de l'administration et je vais remplacer la coach en sport-études à l'occasion. J'aime ça être avec les petits et les voir s'accomplir. Je triperais à coacher les enfants d'Émilie. Sans hésiter, Hammonds affirme que son ex-collègue est très doué avec les jeunes. Megan a toujours aimé s'amuser, alors que moi, je n'aime pas ça, dit-elle avec autodérision. Ma fille veut toujours faire des jeux. Moi, je me dis, on peut-tu plonger aussi? Je préfère quand ça arrête de niaiser. Je dois m'adapter. Au début, j'étais vraiment exigeante. Un talent moins naturel. L'ex-championne du monde doit trouver les mots pour accompagner des athlètes qui apprennent moins naturellement qu'elle. « Des fois, c'est difficile, » dit Émilie. « Ça fait 2 ans que je coache le même monde et je leur répète encore de coller leurs pieds. Ils ne devraient plus avoir à y réfléchir. Avec le temps, j'ai baissé mes attentes un peu. Je dois m'adapter à leurs objectifs. » Elle précise que le club de Brossard accueille surtout des athlètes de niveau régional ou espoir, quelques-uns qui compétitionnent au provincial et un ou deux qui se rendent au national. Mes jeunes ne voient pas d'autres plongeurs qui font de gros plongeons, alors c'est difficile pour eux de voir que c'est accessible. En plus, on a peu d'équipements à sec. On a un trampoline, mais pas de filet ni de ceinture. C'est difficile de progresser sans ça. Megan, qui a été révélée au grand public il y a 20 ans, lors des championnats du monde des sports aquatiques à Montréal en 2005, se décrit comme le contraire d'Émilie. J'ai envie de commencer à la base, dit-elle. Je ne me vois pas coacher les meilleurs au pays pour le moment. J'ai trop fait ces plongeons-là et entendu ces corrections-là. Elle compare ses futures expériences à ce qu'elle a vécu en entraînant des adeptes du CrossFit. Ce n'est pas tout le monde qui lève le même poids, qui squatte pareil ou qui comprend comment faire un exercice du premier coup. J'ai conscience que ça peut être très long. Ça se peut que je sois difficile, mais j'ai peut-être un peu plus de patience qu'Émilie. Cette dernière s'empresse de préciser qu'elle a beaucoup de patience avec ses athlètes, mais moins avec ses enfants. Elle me challenge plus, elle m'écoute un peu moins et je suis plus exigeante envers elle. Mes filles ont le potentiel, mais peut-être pas la même volonté. Des fois, j'ai l'impression qu'elles sont un peu paresseuses. Avec son habituelle franchise, Hammonds explique qu'elle ne deviendra jamais entraîneuse à temps plein. Elle préfère se concentrer sur son entreprise de maillot de bain et accompagner ses filles tant qu'elles auront envie de plonger. Si elles arrêtent, Est-ce que je vais vouloir aller à la piscine 4 soirs par semaine pour coacher? Ça va être plus difficile. À l'inverse, Ben Feito se projette à long terme. Le rêve, c'est de devenir coach à temps plein. Pour l'instant, mon objectif, c'est de recruter le plus de plongeurs possible et de transmettre ma passion. Oui, des fois, ça fait mal. Des fois, ça ne leur tente pas. Mais à la fin de la journée, c'est tellement un beau sport. Rien dans ma vie ne se rapproche de ça. Convaincues que leurs jeunes n'ont aucune idée de ce qu'elles ont accompli, les deux championnes ne croient toutefois que leur crédibilité peut leur servir auprès des parents. Ils doivent se dire que je sais de quoi je parle et ils me donnent peut-être un peu plus carte blanche, explique Émilie. Pour l'instant, aucun d'eux ne m'avait fait la vie dure. Évoluant sur le bord des piscines depuis leur très jeune âge, les deux amoureuses du plongeon ont vu défiler des entraîneurs dont elles peuvent s'inspirer. Émilie Hymans se souvient qu'à ses débuts, elle ne se posait pas de questions et elle écoutait Michel Larouche sans hésiter. Il me disait quoi faire et je suivais. C'est exactement de ça que j'ai eu besoin pendant des années. Vers l'âge de 16 ans, j'avais appris à me connaître un peu plus et j'ai eu envie de m'impliquer. Elle dit avoir apprécié l'écoute de son entraîneuse suivante, Yihua Li. Je m'inspire beaucoup de Yihua aujourd'hui. Comme coach, j'essaie d'impliquer les plongeurs à l'entraînement dans le choix des plongeons. J'aime aussi qu'ils se sentent à l'aise pour me dire comment ils vont pour que je m'ajuste. Pour sa part, Megan Benfeito se souvient avec affection de ses années avec Arturo Miranda. Il était intense, mais il a toujours voulu le meilleur pour ses athlètes. On avait une bonne communication, lui et moi. Elle dit d'ailleurs que la communication est la pierre angulaire du métier d'entraîneur. Quand il se passe quelque chose, tes athlètes vont vouloir te parler au lieu d'avoir peur de toi. C'était « Ma coach est une multiple médaillée olympique ». Un texte de Samuel Larochelle paru le 25 août 2025 dans La Presse.